qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
Cessez d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
There's a war going on outside.
Say what?
Les Roquets Rouges sur CFM.
Salut les feignasses.
Salut.
Coucou. Nous revoilà. Fin septembre, hein, bien sûr, on s'est pris le temps de, on a pris notre temps, on s'est pris un mois de vacances de plus, c'est normal pour des feignasses,
de vrais étudiants.
Extrémistes et cyniques que nous sommes, voilà. Autour de cette table, dans cette nouvelle saison, la sixième saison des Roquets Rouges, pour la première émission, Katia.
Bonjour. Et au revoir, certainement aussi.
Katia et demi.
Katia qui a tenu à venir ici, pour après, un long départ.
C'est ça.
Peut-être,
anticipé.
Pour des missions, plus noble que...
plus noble, je ne sais pas.
Bah, pour la survie de l'espèce, quoi. Voilà,
c'est, oui, c'est ça, bien
c'est
sûr. De l'humanité, même, ouais. Je dirais.
Avec nous aussi, Romain. Il est venu avec son canard enchaîné, bien sûr. Ouais. Il n'a pas encore renversé de bière, mais l'émission de télé commence.
J'ai toujours pas préparé de chronique, bien sûr.
On aurait été surpris du contraire. Et Ellie, que vous connaissez, et qui maintenant est dans l'équipe, qui est titulaire de du poste. Ça n'arrive que dans les associations bénévoles, ça, où on n'est pas payé. Hein, ça, sinon, c'est une légende urbaine, là.
Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. T'es un titulaire, c'est légende urbaine.
Voilà, vous avez passé de bonnes vacances, les copains?
Ça va. Oui.
Oh, génial.
Oui, aussi.
Oh, super, voilà. Merde, voilà. Non, je suis ennoblé avant de commencer les chroniques, voilà. Mais bon, tant pis.
Et toi, Guillaume, t'as passé de bonnes vacances?
Ouais, j'ai passé une bonne vacance. J'étais dans un ancien pays de l'Est, qui est super joli, qui s'appelle la Slovénie. Voilà. C'est la Suisse avec l'exotisme balkanique.
Avec députés des ours.
Surtout des ours, pourquoi?
J'avais entendu des députés et des ours. Oui, je voyais pas bien le lien.
Moi aussi, puis j'ai traduit, et voilà. Non. Non, parce que toi, quand tu penses Balkan, tu penses prostitution.
Slovénie, oui, prostitution et ours.
Mais... Tu confonds avec Slovaquie, peut-être.
Mais oui, t'as tout à fait raison. Ouais. C'est des clichés, mais oui.
Voilà.
On ne se demandera pas, par contre, pourquoi, personnellement, tu penses à ça.
Aucun rapport avec mon expérience personnelle. Ouais. Non, j'ai jamais
rencontré avec des ours. Très bien. Allez, ben, on va commencer par Ellie, justement, qui va revenir sur une info locale qui nous a bien énervé, et tu vas nous donner quelques explications.
C'est ça, une info locale, exactement, qui nous a bien énervé, qui m'a bien énervé quand j'ai écrit mon texte. J'étais, remontée à bloc, j'en pouvais plus, quoi. Je me suis calmée, après, j'étais boire une bière, ça allait mieux. Donc, je vais vous parler de l'agression d'un délégué CGT du McDonald's de Villefranche-de-Rouergue, qui s'est fait donc tabasser, tout simplement, le 15 septembre dernier. Il s'appelle Quentin Leirat, et donc en sortant du local de la CGT, d'après ce que j'ai compris, deux types lui sont tombés dessus, et il s'est fait casser la gueule. Et c'était bien en lien avec ses revendications syndicales et ses actions syndicales.
Parce que dis-nous qui c'est, Quentin Leirat, peut-être.
Oui, donc c'est un délégué syndical de l'Union locale CGT de Villefranche-de-Rouergue, du coup, qui a mis en place donc tout un mouvement au McDonald's de Villefranche-de-Rouergue pour revendiquer des choses basiques, des salaires dignes, plus de sécurité au travail, et aussi pour mettre fin à des discriminations, notamment des discriminations homophobes qui avaient lieu.
Ouais, mais il demande beaucoup aussi quand même.
C'est un extrémiste. Oui, bien sûr.
Oui, c'est ça. C'est attends. Faut pas trop en demander non plus, c'est clair. Donc, moi, ça m'a complètement outré quand on m'a dit ça. En plus, quand j'ai voulu avoir plus d'infos, forcément, personne n'a relayé l'info. En tout cas, au niveau
localement, local. Localement, apparemment, ouais, je sais pas.
Local, il y a rien du tout. J'ai vérifié. Il y a aucune info. Bref. Donc, du coup, je me suis un petit peu intéressée à l'histoire. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, je sais pas tout. On n'a pas tous les sons de cloche. On sait pas exactement, tous les tenants et aboutissants. Mais en tout cas, il s'est fait tabasser. Je l'ai déjà dit. Par rapport à ses actions syndicales, ça c'est sûr et certain, puisqu'un de ses agresseurs lui a dit, et là je cite donc Quentin qui répond à une interview, « Je me souviens de quelques phrases, et notamment lorsqu'il disait que j'étais le copain des deux PD du McDonald's.
Voilà. » Ah bah alors vraiment, il avait des revendications très infondées.
C'est ça, exactement, tu vois, c'est la preuve par exemple, quoi. Quentin nous explique justement que dans le McDonald's, suite au mouvement de grève, aux revendications, un autre mouvement syndical s'est mis en place. donc chose qui se fait habituellement, pour contrer justement ce mouvement syndical. Et la gérante du McDonald's de Villefranche de Rouergue a mis en place aussi un climat très malsain, enfin le management tout pourri là, comme on le connaît, par la terreur, par les intimidations, par les manipulations, etc. Donc je voulais en parler parce que certes on connaît pas tous les détails. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est fait tabasser parce que c'était un syndicat. Moi, je trouve ça juste inadmissible. Les syndicats sont quand même là pour lutter pour les droits de tous, quoi, même pour ceux qui ne sont pas syndiqués. Donc, c'est quand même assez fort d'aller leur taper dessus, je trouve. Et je trouve ça juste inadmissible, quoi. On est où, quoi? C'est le Moyen-Âge, sans déconner. C'est la Gestapo. C'est franchement, c'est n'importe quoi.
Ah, oui. Merci.
Ça, non, mais c'est plus violent, attends, mais c'est, ah, c'est, voilà, plus, c'est pas un cas isolé, il y en a de plus en plus, quoi.
C'est ça.
Le sac à voir placé en gros, bon, moi, ça fait, je suis désolé, quand je l'ai appris, j'ai un peu rigolé, maintenant j'ai honte, mais Vincent Placé, c'était pareil, il s'était fait péter la gueule il y a 10 jours, là, il s'était fait piquer sa montre, son portable, enfin, il y en a de plus en plus des agressions politiques.
Sans être à la CGT, en plus.
C'est quand même un peu fou, quoi. Non, non, mais sur des plans politiques, ouais, les gens se crispent, il y a plus de débat sur le fond, mais par contre, les gens se tendent.
Exactement.
Comme des...
Moi, c'est ce qui me tue, c'est que, enfin, je veux dire, on peut discuter quand même, quoi. On n'est pas obligé d'en venir à des extrêmes comme ça, quoi. Donc, au-delà d'agression, mais il y a deux points sur lesquels je voudrais insister, parce que justement, je trouve que cette agression, elle est le résultat de ça. Et du coup, c'est aussi deux éléments, je trouve, vraiment pourris, quoi, de cette situation. Le management, voilà, déjà. Il y en a marre de tous ces petits patrons, là, ces petits chefs et ces managers à deux balles, là, qui pètent plus haut que leur cul parce qu'ils ont, un tout petit peu de pouvoir, quoi.
Et 20 euros de plus sur la feuille de paye.
Et 20 euros de plus sur la feuille de paye, c'est ça. Puis bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve que dans la restauration, quoi. C'est dans tous les secteurs, hein, ce genre de choses, manipulation, etc. Voilà. Donc, je voulais juste dire que l'autorité, c'est le pouvoir des faibles. Il y en a marre. Il y en a marre.
Allez, prends ça, petit chef.
C'est ça, prends ça, petit chef de merde, là, qui te croit plus fort que nous parce que t'as 20 euros de plus sur ta paye, enfoiré. Du coup, ce qui est ressorti aussi apparemment, c'est qu'il y a eu pas mal de pression sur les autres salariés du McDonald's pour contrer Quentin. Donc là, apparemment, certains y ont cédé, d'autres non. Bon, bien sûr, on peut leur reprocher. En même temps, bon, quand tu penses que tu vas perdre ton boulot et tout, forcément, t'es pas très à l'aise et tu fais au mieux, quoi. Ça peut se comprendre. Mais justement, c'est parce que c'est le système qui va pas, parce qu'on ne peut pas s'exprimer... justement sans avoir peur des conséquences sur son travail. Et je voudrais revenir aussi sur l'homophobie, parce que là justement c'est quand même apparemment le début de toute cette affaire, quoi. Homophobie donc dans l'entreprise et homophobie des agresseurs avec leur joli petit PD là. Et aussi, en fait, il y avait 3 points, il n'y en avait pas que 2. Je sais pas compter, je suis désolée.
On suit, oui.
On n'est pas là pour ça.
Ouais. Le McDonald's, voilà, parce que en plus de toute cette merde d'agression, d'homophobie, de management, etc., il y a aussi la question du McDonald's, avec tous les points positifs qu'on peut y trouver. Mais bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste, je voulais rappeler les McDo, les multinationales, la précarité des salariés, les problèmes de santé que ça engendre, la pollution, etc. Et oui, il y en a, etc., parce que je pense qu'il y en aurait au moins 20 points à rajouter, quoi. En bref, une info qui n'a pas du tout été relayée par la presse locale, et c'est bien dommage. Et moi, ça m'a vraiment foutu les boules, quoi, parce que je trouve que c'est juste inadmissible qu'on s'en prenne aux gens qui défendent les droits de tous, quoi. Et je voudrais du coup rappeler aux gens qui s'en prennent aux syndicats, aux gens qui critiquent les syndicats aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je précise que je suis pas syndiquée, hein, parce que là, c'est vrai que ça fait un discours de syndiquée, mais je ne suis pas syndiquée. N'oublions pas que nos ancêtres se sont battus justement pour ces droits et certains de nos ancêtres étaient des syndicats. Du coup, je pense que là, ils doivent se retourner dans leur tombe. Voilà.
Merci, Ellie.
Ouais. Moi, ça me fait penser aussi à, c'est aussi la conséquence d'un truc beaucoup plus vaste qui est ce bourrage de crâne autour de les pauvres patrons qui sont noyés par les charges et qui, alors que du coup, c'est eux qui défendent nos emplois. Alors, c'est la crise, donc s'ils payent trop de charges, forcément, c'est nos emplois qui sont en jeu. Et moi, sur les choses qui m'ont choqué cet été, c'est le nombre de conversations interpersonnelles où sont autour d'une table des ouvriers, des précaires, des travailleurs petitement rémunérés et petitement considérés, qui du coup témoignent d'une empathie sans phare, vraiment vis-à-vis de ces pauvres patrons à qui on demanderait peut-être un jour de payer plus de cotisations, mais comment vont-ils faire ?
Non, mais après il faut les trier, je pense. C'est vachement important de les trier. De trier les patrons, faut vraiment les trier parce que de ce qui pouvait limiter l'accès au pouvoir de force comme des gens comme Mélenchon. C'est justement le fait de patrier, parce que alors ça, justement, c'est des gens qui devraient voter pour nous, parce que c'est des gens qui se font justement, les petits patrons se font vraiment assommer de charges, c'est la réalité. Ceux qui sont à 6% de McDo et compagnie, c'est eux qui maltraitent le plus Exactement. Humainement leurs employés, c'est eux qui ne payent pas, de charges, c'est eux qui polluent le plus. En bilan carbone, c'est eux qui ont le coût le plus énorme, parce qu'ils profitent d'être internationaux justement pour avoir les bénéfices de chaque pays, donc c'est eux qui pourrit le monde. Et le fait, si on ne les trie pas, à chaque fois que quelqu'un de gauche ne trie pas les petits patrons, il se met en ennemi une classe qui est énorme et qui en plus est prescriptrice d'idées. Quelqu'un qui a réussi, qui a 5-6 employés, qui a sa petite entreprise, même s'il n'est pas milliardaire, c'est quelqu'un que souvent les gens s'en servent plus comme référent moral qu'au 19e, c'était les instituts, le curé du village et le maire. Aujourd'hui, c'est les mecs qui ont du pognon. Ils sont prescripteurs moraux.
Et ça me rappelle un commentaire de François Ruffin qui justement s'adressait au petit patron qui disait mais vous en fait vous êtes comme le clergé,
c'est les petits curés de campagne
le clergé de 1789, les évêques se cachaient derrière eux en disant regardez nous on est proche du peuple, alors qu'eux se gavaient de richesses et d'impôts, et ils se cachaient derrière les petits curés de campagne qui eux étaient proches du peuple finalement, qui en chiaient autant que le paysan du coin. Et aujourd'hui voilà, le petit clergé c'est le petit patron d'entreprise qui en chie effectivement, par solidarité de classe, se met plus proche du grand patron, se croit plus proche du grand patron que de son employé, alors que en fait non. En fait,
Mais je suis d'accord, mais du coup dans ce que vous dites, il y a quand même effectivement une notion de classe quand même.
Oui, on peut critiquer le capitalisme
qui doit intégrer les petits patrons, mais il y a quand même une notion de classe. Moi, ce que je trouve, c'est que la conséquence de tout un tas de discours ambiant là, c'est qu'on n'a plus du tout de repères de classe chez un certain nombre.
Oui, mais les classes ont changé. Il y a des petits patrons qui se retrouvent aussi prolétarisés. Oui, mais je veux dire, avant, il y avait quand même un petit patron, je pense, s'en sortait mieux qu'aujourd'hui. Je pense que les petits patrons tiraient moins la langue dans les années 80-90, jusqu'à la fin des Trente Glorieuses. Un petit patron, c'était vraiment la classe supérieure. Et aujourd'hui, tu vois la coiffeuse qui a même son petit salon, elle est plus prolétaire que quelqu'un qu'une caissière qui fait deux dimanches par mois. Les classes sont un peu, il y a toujours des classes, les failles n'ont jamais été aussi grosses même, mais seulement dans le bas des classes, il y a moins d'écart quand même.
Oui, moi c'est les patrons de grandes entreprises et de multinationales, etc., que je pointe du doigt, parce que pour moi c'est vraiment eux qu'il faut faire raquer, quoi. C'est pas les petits patrons justement qui ont travaillé 30 ans pour monter leur boîte et qui ont réussi à employer 3 salariés, quoi.
Après, il y a aussi des sales cons chez les petits patrons.
Il y a du harcèlement moral aussi dans les boîtes, mais après sur les inspecteurs
de travail. Dès que t'as un brin de pouvoir aussi, ça peut tourner la tête.
Oui, et c'est ce que je disais, c'est l'autorité, c'est le pouvoir des faibles.
Et je suis quand même atterré de la gestion que McDo, enfin que cette patronne fait, parce que elle peut se faire pourrir, parce que localement, on n'a pas entendu parler, mais moi j'ai vu circuler cette info-là sur plein de réseaux sociaux nationaux. La CGT nationale relaye cette histoire-là, et ça va faire énormément de tort à l'image de McDo. Alors si en plus il y a des insultes homophobes, ça c'est pas hyper, c'est pas moderne, ça c'est pas,
c'est ça,
c'est pas hyper. Et donc ils peuvent très bien se faire retirer la franchise si elle continue à s'entêter dans un conflit comme ça.
Ouais, bah, ce serait bien.
Elle peut se faire retirer.
Qu'elle
la franchise,
ramasse un peu ses dents là.
Ouais. Et t'ira servir les burgers toute seule, quoi. Bon, voilà. Première émission, on dit du mal de certains, on dit du bien de certains patrons.
Bon, pas quand même,
relativiste. Allez, on fait une pause musicale. Je crois qu'on l'a déjà passée. Je viens de l'entendre cette chanson-là avant d'arriver. Je l'ai dans la tête, donc je vais vous la mettre dans votre tête aussi. C'est La Yegros, La Chicha Roja.
Yo les pagaré más. Des roquets rouges, ils crient, ils mordent et ils s'enfuient.
Et maintenant, nous allons passer à Guillaume.
Ouais, vous l'auriez vu juste avant la fin du jingle, bras écartés, disant c'est à moi.
Grand signe, lancez-moi, connard.
Lancez-moi. Donc ouais. Guillaume, aujourd'hui, va nous parler d'un sujet gay.
Ouais. Mais donc, pas gay comme...
Mais pas gay
pas genre au sens à se prendre super joyeux. Des coups de poing à McDo,
mais la fin du monde,
un peu,
tout
voilà,
simplement.
Voilà. Donc, comme disait déjà le dramaturge grec Sophocle au 5e siècle avant Jésus-Christ, et je lis ça parce que je sais que j'ai des littéraires à côté de moi, « On t'invite à la magie, il n'y a pas de raccourci, oublie tes soucis, oh, 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 feel the magic in the air, allez, allez, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. » Citation qui n'a absolument rien à voir avec la suite de ma chronique, ni avec une quelconque logique d'ailleurs, mais je pensais que c'était important de la placer dès le début pour rigoler un peu, parce qu'après, c'est pas drôle du tout. Pour bien commencer la saison 6 des Roquets Rouges, j'ai choisi en effet de vous parler de la fin du monde. Cet été est paru dans Libération une lettre d'Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement sous Jospin, qui en gros nous dit ceci. Ma carrière politique est terminée, les écolos sont morts politiquement, j'en ai plus rien à battre, je vous déballe tout, cash. Et Yves Cochet nous explique donc quelles sont les dernières prévisions scientifiques concernant le réchauffement climatique. Alors, je vais commencer par la bonne nouvelle. Généralement, quand on commence par la bonne nouvelle, c'est que c'est pas super cool. La bonne nouvelle, on va pas tous mourir. La mauvaise, soyons honnêtes, on sera pas tous là en 2040. Et là, vous êtes en train de calculer votre âge en 2040. Rajoutez 22 ans, c'est tout. Donc, finalement, la deuxième bonne nouvelle, les retraites, c'est pas si important que ça. Au lieu de cotiser, achetez plutôt du sucre, de l'alcool et des armes.
Mais alors, que dit précisément la lettre de tonton Yves ?
Yves Cochet estime, voyez-vous, que les 33 prochaines années sur Terre sont déjà écrites, grosso modo, et que l'honnêteté est de risquer un calendrier approximatif pour l'examiner froidement. La période 2020-2050 sera la plus bouleversante qu'aura jamais vécu l'humanité en si peu de temps. À quelques années près, elle se composera de trois étapes successives, la fin du monde telle que nous le connaissons, 2020-2030, l'intervalle de survie, 2030-2040, et le début d'une renaissance 2040-2050.
Et l'effondrement... Je sors, moi, par contre. Excusez-moi, je t'en pas toute seule dans mon corps, je sors.
C'est ce que moi, vous n'avez pas prévu d'avoir des enfants d'ici
les prochaines
années, hein, ça va. Donc, bon, pas, voilà.
L'effondrement de la première étape est possible dès 2020, probable en 2025 et certain vers 2030.
Quelles seront les étapes suivantes ?
Alors la seconde étape, dans les prochaines années 30, sera la plus pénible au vu de l'abaissement brusque de la population mondiale, épidémie, famine, guerre, de l'épuisement des ressources énergétiques et alimentaires, de la perte des infrastructures. Yves Cochet se demande s'il y aura de l'électricité en Ile-de-France en 2035. 2035, vous ajoutez 18 ans à votre âge. Et de la faillite des gouvernements. Ce sera une période de survie précaire et malheureuse au cours de laquelle le principal des ressources nécessaires proviendra de certains restes de la civilisation passée. Un peu de la même façon qu'après 1348 en Europe, les survivants de la peste purent bénéficier des ressources non consommées par la moitié de la population qui mourut en 5 ans. Nous omettons les descriptions atroces des rapports humains violents consécutifs à la cessation de tout service public et de toute autorité politique. Certains groupes de personnes auront ont eu la possibilité de s'établir près d'une source d'eau et de stocker quelques conserves alimentaires et médicamenteuses pour le moyen terme, en attendant de réapprendre les savoir-faire élémentaires de reconstruction d'une civilisation authentiquement humaine vers 2050. En gros, on est dans Mad Max.
Est-ce que c'est sans espoir ?
Bien sûr que non ! L'avenir est par définition imprévisible. Tout n'est pas inscrit dans le marbre et tant qu'un événement n'est pas arrivé, de nouveaux éléments peuvent revenir le modifier volontairement ou non. Il n'est pas trop tard pour une prise de conscience. Quand on demandait à Hervé Le Trott, qui dirige l'organisme français qui travaille sur la modélisation du climat, comment peut-on déclencher cette prise de conscience, il répondait tranquillou qu'il fallait une catastrophe climatique majeure.
Et qu'est-ce qu'une catastrophe climatique majeure, d'après ce climatologue ?
Eh ben, c'est pas moins d'un million de morts, dans un pays blanc, bien entendu. Hein. Et en disant ça, je suis pas sûr de vous redonner espoir, en fait.
Je crois savoir, Guillaume, que tu as fait la guerre du Vietnam chez les Bérets Verts. Aurais-tu des conseils à nous donner ?
Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas fait la guerre du Vietnam chez les Bérets Verts. Faut pas raconter n'importe quoi, Ellie, s'il te plaît. Moi, j'étais dans le camp du Vietnam Nord, s'il te plaît. Je me battais avec la République Populaire. Ok, bon. Donc, mais bon. J'ai des conseils, oui. Je répète qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas être dans le déni. Mais quoi qu'il arrive, moi je ne crois pas à l'univers Mad Max. Ça c'est le côté spectaculaire qui plaît au cinéma et qui plaît aussi aux médias. On l'a vu pendant l'épisode de l'ouragan Irma, où les caméras se sont d'abord focalisées sur quelques pillages, avant que les habitants viennent témoigner que les seuls pillages étaient pour des raisons évidentes de survie dans les maisons vides ou les commerces. Les habitants se sont pas entretués. Au contraire, il y a eu une auto-organisation, une solidarité générale. Et ce sont les infos tronquées des médias qui ont créé un climat anxiogène. Et c'était pas passé exactement la même chose pendant l'ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans. Les Américains avaient envoyé l'armée tout de suite parce qu'ils avaient peur de pillage, alors qu'il y avait des quartiers entiers qui étaient résilients, qui avaient organisé des crèches, des hôpitaux de fortune. Et c'est ça la majorité qui s'est faite. Donc les catastrophes pulvérisent aussi l'information. Alors j'avais lu il y a quelque temps le témoignage d'un ancien GIs qui racontait son expérience dans un camp japonais de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les camps japonais de prisonniers de guerre, c'était pas le Club Med. Hein. Et lui était dans le civil un universitaire. Et il voyait autour de lui des camarades de meilleure constitution physique, des paysans, des métallos, qui dépérissaient plus vite que lui. Et il en a conclu que lui avait la chance de disposer d'un capital culturel plus dense qui l'aidait à relativiser, à trouver des solutions, à s'évader par la pensée, etc. Car les humains ne dépendent pas que de leur technologie ni de leurs conditions physiques. On dépend aussi de son mental. Donc, il nous faudra des radios à piles, non seulement pour écouter des informations, mais aussi écouter de la musique. Il nous faudra des générateurs électriques pour regarder des films. Et il nous faudra des comédiens, des artistes, des petits rigolos qui nous feront oublier la difficulté de nos existences, qui nous aideront à décompresser, à mettre de la magie dans l'air, en quelque sorte. Voilà.
C'est beau.
Wow. Ça me fait envie, en fait. Du bien.
Ouais, la confusion fait du bien, oui. Ouais, parce que
vivement 2050.
Parce qu'à un moment, je me suis dit que Monsieur Cochet, il n'y avait que deux solutions, quoi. Soit il est en grosse dépression, soit il se reconvertit dans le scénario hollywoodien, mais...
Peut-être. Non, il est réaliste.
Alors, j'ai cherché des... Alors, ça, c'est un article qui est passé cet été. J'ai cherché des articles de polémique qui auraient contredit ce qu'il disait. J'en ai pas trouvé.
Ah, mais non, mais il y a six mois, le dernier rapport du GIEC qui était clair.
Hein. Ben,
2014, ils ont fait quatre propositions, quatre perspectives possibles sur le climat. Et il y a six mois, ils ont dit, ben, même la plus pessimiste, on est en dessous de la réalité. Et la plus pessimiste, elle était entre 3,3 degrés et 5,5 à 2050. Ce qui laisse mettez-vous à la permaculture, commencez à faire des réserves d'eau énormes dans le sous-sol.
Ou foutez-vous à poil, buvez de l'alcool, et puis voilà quoi.
Par contre, j'ai regardé un truc l'autre jour sur Thinkerview, une espèce de chaîne qui est assez intéressante, même que des fois il y a des gens un peu space, mais vous pouvez regarder ça, Thinkerview, et ils font parler un espèce de gars qui a beaucoup réfléchi, j'ai l'impression, à toutes ces...
Comment tu donnes envie
Non mais allez-y, Thinkerview, allez-y, il y a plein de gens super intéressants. Et du coup, il disait que dans beaucoup de trucs d'apocalypse SF qui prévoit la fin d'un monde à cause de trucs climatiques, faut pas faire des grosses réserves de bouffe, hein, parce que c'est les premiers lieux qui sont attaqués, quoi. Les gros stocks, donc il vaut mieux faire des tout petits stocks un peu partout.
D'accord. Mais bon, donc il faut mettre un panneau devant chez soi en disant je n'ai pas de nourriture.
Voilà. Y a rien. J'espère qu'on le connaîtra pas. Mais
Non mais moi ça j'y crois pas. Ça voilà justement l'histoire de Mad Max, des gens qui vont s'entretuer. On a tout va pas s'effondrer, c'est-à-dire notre culture politique notamment et nos réseaux de solidarité, nos réseaux familiaux, nos réseaux d'amis vont pas s'effondrer du jour au lendemain.
Ça va
pouvoir s'en sortir. Ça il va y avoir des choses qui vont changer dans les années qui viennent. Après est-ce que ça se fera en douceur, genre une révolution tranquille où finalement dans 10 ans on s'apercevra que finalement tiens on mange plus de viande mais on s'en sera pas rendu.
Ouais, mais c'est pas possible.
Je sais pas.
Le temps est trop serré. On va pas changer notre modèle économique en 40 ans. On va pas en passer à de la consommation locale. Forcément. Mais moi, je pense que le choc, il sera positif quelque part, quoi. Parce qu'on va être obligé. Ce qu'on va pas faire, si les politiques, si on était intelligent collectivement, ça fait déjà 25 ans qu'on aurait restructuré des réseaux. Parce que le secret pour tenir.
Comment ça se fait?
C'est des réseaux courts. Pour qu'on puisse fluidifier les transports de bouffe.
Parce qu'en fait, comment ça se fait?
Notre système est très risqué parce que on a un maillage économique super épais et dès que tu coupes un tuyau d'alimentation, que ce soit de l'énergie, de la bouffe, n'importe quoi, que ce soit les flux d'énergie, tout ce que tu veux, dès que tu coupes, tu paralyses une zone entière. Et ça fait des incidents économiques en cascade, quoi. Il n'y a que relocaliser qui pourrait, on est dedans, quoi.
Allez, ouais. On se détend, pas de panique, continue à écouter les Rock et Rouge.
Mais tu sais ce truc là de tous les films apocalyptiques justement qu'on voit dernièrement. Bah, j'ai l'impression que justement, tu vois, c'est une espèce de truc inconscient, voilà, tu vois, de l'humanité qui est en train de dire attention, ça va arriver. Alors
voilà, comment
faut
faire toi. Ou comment faut pas faire. Oui,
ou comment il faut pas faire, voilà.
Mais ce qui est beau, c'est que c'est pas d'un gros choc, quoi. T'as vu, c'est à coup de 400 morts.
C'est nul.
Ils se conscientisent pas, 400 morts.
Ouais, il faut un million de morts chez les Blancs, et là, on s'en rend compte, peut-être, voilà.
Ouais, même plus, hein. 2 ou 3 milliards.
Milliards, oui, d'accord. Bon, voilà, sur ces bonnes paroles, allez, c'est pas le genre de musique qu'on écoute d'habitude au rocker, mais justement, on va se détendre, on va se lâcher un peu, allez hop, vous oubliez tout, et voilà, vous remettez vos fesses chez vous, et ça va aller mieux. Magic System.
Chalky, ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble on fait le show.
Moi, président de la République, j'ai une très très...
Bah, dis-le, on peut le dire.
Ladies and gentlemen, we got it.
Je croirais chez les bolcheviks.
Alors, pour nos auditeurs, ne vous scarifiez pas les bras, ça ne sert à rien. Voilà, c'est nul. Voilà, ça vous fait mal et ça peut s'infecter.
Pourquoi tu penses à ça? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pause?
Bon, mais on va vous remonter le moral avec Katia qui va vous traiter de feignasse.
Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, pour cette première chronique de l'année, j'avais envie de vous parler plus en détail de ceux qui font l'actualité en ce moment, ces satanés fainéants, comme le dit notre président Manu Macroute. Oui, parce qu'en l'entendant utiliser cette tendre dénomination pour désigner les militants, syndicalistes, travailleurs, précaires, jeunes, retraités et autres, descendant dans la rue défendre leurs conditions de travail et de vie, je me suis rendu compte que j'étais finalement entouré moi-même, oh mon Dieu, de un paquet de fainéants. Et grâce à Manu, ben, je me suis aussi rendu compte que je devais pas connaître la vraie définition du fainéant. Parce que selon moi, et j'ai vérifié, selon Robert et Larousseau aussi, un fainéant, c'était quelqu'un qui, bien que ne me dérangeant aucunement, parce que souvent ne faisant de mal à personne, effectivement préfère passer l'intégralité de son temps à procrastiner sans jamais prendre en compte pour se mettre en action l'intérêt d'un autre ou l'intérêt commun. Il me semblait que c'était quelqu'un qui est plutôt dégoûté par le faire et qui est plus attiré par le fuir, voire dans ses déclinaisons les plus extrêmes, quelqu'un qui aurait une petite tendance à profiter des autres et du système pour son confort personnel.
Oui, mais c'est bien ça qu'il a voulu dire Emmanuel Macron en employant ce mot. Pourquoi tu dis que tu découvres une autre définition?
Ben, s'il a voulu dire ça, alors c'est qu'il en connaît pas beaucoup de gens qu'il nomme comme fainéants. Parce que pour ma part, si je regarde à la tronche de leur journée, à ces fainéants, on colle pas bien à la définition.
Par exemple, dis-nous, c'est quoi selon toi la journée d'un fainéant?
Alors, Il y a autant de variétés de fainéants que de fainéants. Mais je vais prendre un exemple. Désolée pour tous les autres, il y aurait de quoi faire une chronique de 24 heures avec des exemples de vie passionnante, mais j'en choisis un, juste un, que je vais anonymer, et vous verrez qu'on est bien loin de la définition du Larousse ou du Macrousse. Elle s'appelle, disons, Leïla, elle a une trentaine d'années. Leïla cumule, pour commencer, plusieurs activités. Elle n'a pas vraiment de problème avec le faire. Elle travaille à temps plein dans le service public. Elle est aussi déléguée du personnel, déléguée syndicale, membre active du bureau d'un parti politique.
Elle me plaît, celle-là.
Membre active d'une association culturelle, membre active de deux associations de défense et d'hébergement des étrangers, membre active de l'antenne locale d'une ONG, membre d'une association de défense d'une minorité. Elle est maman, elle est aussi fille de ses parents, sœur de ses frères, amie de ses amis, et elle leur offre leur solidarité autant que de besoin. Leïla se lève le matin tôt, elle part au boulot pour la journée. Lors de ses pauses, elle regarde son portable, écoute ses messages, pour la plupart associatifs, rappelle les urgences pour gérer l'indispensable et se remet au travail. Le midi, elle mange un sandwich vite fait et en profite soit pour de furtives mais efficaces rencontres avec des partenaires des associations auxquelles elle participe pour faire avancer les projets en cours, soit elle ouvre sa boîte mail, généralement découvrant une trentaine de nouveaux messages à traiter. À la fin de sa journée de travail, vers 17h, la plupart du temps, elle ne rentre pas de suite chez elle. Elle enchaîne avec une, voire deux, les grands soirs, réunions associatives ou syndicales ou politiques. Les soirs de off, elle offre sa présence chaleureuse à ses amis ou à sa famille. Les demi-journées de off, elle s'occupe un peu plus de son rôle de déléguée syndicale et du personnel. Le soir, avant de se coucher, elle jette à nouveau un coup d'œil à ses mails, bim, encore 30, et elle gère le nécessaire. Il n'est pas rare de recevoir un message de Leïla à plus de minuit un soir de semaine. Le week-end, il y a souvent une journée de bénévolat pour une manifestation culturelle, politique, associative, une mobilisation de lutte, ici tout près de chez elle ou plus loin.
Oh, c'est fatigant, rien qu'en l'écoutant.
Oui, mais il y a un hic, parce que oui, oh oui, je l'avoue, parfois, le dimanche matin, Leïla dort. C'est peut-être là que la définition de fainéante prend tout son sens. C'est quelques dimanches matins où elle gâche outrageusement son temps à son petit plaisir et confort égoïste et personnel, sans se soucier des autres. Elle dort la gueuse.
Oh là là.
Vous avouerez quand même que des fainéants comme ça, ça brasse un peu, non? Et puis, je voudrais bien avouer aussi que ça brasse pas que du perso, ça brasse quand même pas mal de l'intérêt général, du souci de son prochain, plus que de son canapé dont j'ai peu parlé, vous en conviendrez. Et dans Leïla, il y a plein de gens qui vont se reconnaître de près, de ces gens qui occupent cette vilaine rue qui n'est pas démocratie. Des Leïla, il y en a des milliers, c'est pas un épiphénomène, ces fainéants de lutte.
Une autre chose sur les fainéants?
Oui, encore un petit truc. Savez-vous que leur égoïsme journalier rivalise parfois avec leur égoïsme financier? Fainéant rime évidemment avec radin, gripsou, Macrouta se doit bien y penser un peu, quand il désigne avec mépris ces gens-là qui veulent garder tous leurs énormes privilèges alors que le monde va si mal, sans être prêts à donner un peu d'eux et à partager un peu de leurs acquis, voire de leur salaire. Alors que si on garde l'exemple de Leïla, mais encore une fois des Leïla vous en trouvez plein le pavé et plein les ronds-points, eh bien sachez que Leïla, petite privilégiée de la fonction publique comme diraient certains, touche le confortable salaire de 1200 euros par mois.
Waouh, tout ça,
c'est énorme.
Ouais, tout ça. Mais attends, sur ces généreux 1200 euros, elle cotise tous les mois au syndicat, au parti, fait des dons mensuels pour l'hébergement de familles à la rue, cotise mensuellement à une ONG de défense des droits humains, se nourrit volontairement au maximum auprès de producteurs locaux et bio, a pas mal de frais d'essence pour toutes ses activités associatives de soirée et de week-end. Bref, vous conviendrez que l'égoïsme financier n'est pas vraiment au centre de sa gestion budgétaire. Alors pour conclure, soit on change la définition de fainéant dans le dico, soit on explose immédiatement de rage à la figure de ce président et de son gouvernement, qui soit ne connaissent pas les personnes dont ils parlent, ou pire, les connaissent quand même un peu, mais qui les insultent à dessein de manière infondée et méprisante, qui les humilient, les diffament de manière grossière, uniquement dans le but de discréditer leur énergie et leurs utopies, et ceci encore uniquement dans l'intérêt de préserver les privilèges de leurs copains, patrons, employeurs et financiers. Alors, qu'il est clair que ce sont ces fainéants qui font et qui rêvent un monde plus juste, et que vouloir les écraser est une folie, et les laisser le faire l'est aussi. Leïla, d'ici et d'ailleurs, fainéants de tous les pays, unissons-nous, banzai.
Très bien.
Ouais. Nous donnera envie de relire peut-être, et je vous conseille de relire Le droit à la paresse de Paul Lafargue, qui a écrit ça au 19e siècle aussi, pour revendiquer ce droit-là. Il y a une différence entre paresse et fainéantise, peut-être que certains, comme notre cher président, ne connaissent pas. Et la paresse, c'est quelque chose de très constructif, justement aussi. On a besoin de s'ennuyer, de rien faire, c'est ça qui nous aide à nous développer aussi, et à nous enrichir. Et je revendique le droit d'être paresseux, j'adore ça aussi.
Tu as bien raison.
Merci.
Pareil, je pratique.
Ah oui. Nous le saurons dans quelques instants quand tu diras ta chronique.
Voilà. Voilà.
Très bien.
Alors.
T'avais choisi une musique,
oui,
Katia?
Didier Super, Manipulez-nous mieux.
Ouais.
Bonjour. On est perdu, on croit plus rien. Même les vieux, ils ont capté qu'en fait, notre président, c'est pas lui qui dirige vraiment. Que nos vrais chefs, c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. Et c'est pour ça, droite ou gauche, ben, ça reste plutôt à droite. Même ma mère, elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Et elle dit qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur, en nous montrant la merde des autres, pour qu'on se contente de la nôtre. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, construisez vos piscines en fermant toutes nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, servez-vous dans nos frigos. Nos impôts, c'est déjà cadeau, mais faites-nous croire qu'il y a des martiens. Ça fera moins peur que croire en rien. Les enfants dans les écoles demandent qu'à croire cette histoire, que si au pays des barbus, il y en a qui nous veulent pas du bien, c'est juste à cause d'une religion, et donc ça n'a aucun lien avec les militaires qu'on leur envoie régulièrement pour leur bien. Manipulez-nous mieux, allez juste un petit effort, on vous demande pas grand chose, vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. La plupart d'entre nous, on aime bien se contenter de peu. On cherche pas à réussir et encore moins à diriger. On n'a pas très envie de passer à la télé et encore moins envie d'être reconnu dans la rue. La plupart d'entre nous, on saurait pas quoi foutre d'ailleurs. On n'a pas l'intention de laisser notre nom dans l'histoire. On voit pas l'intérêt d'accumuler autant de milliards. Et c'est sûrement ça qui prouve que par rapport à vous, en fait, si ça se trouve, eh ben... En fait, on est évolué.
Les roquets rouges, ils crient, ils mordent et ils s'enfuient. Du roc et du rouge.
Vous êtes toujours sur les Roquets Rouges, CFM Rodez 107.9. Et il ne manque plus que deux chroniques à Romain pour avoir un abonnement gratuit au Canard Enchaîné.
Mais je ne l'aurai pas encore. Bah, et du coup, oui, ça voilà. viendra, j'arriverai à faire une parente. Et du coup, je vais en profiter juste pour parler un tout petit peu d'un changement de Macron, de sa façon d'être capitaliste. Parce qu'ils vont supprimer l'ISF, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc pour l'instant, ça touchait les gens qui avaient plus de 1,3 million. Donc ça ne devrait pas nous concerner de suite. Et il va le remplacer par l'IFI, l'impôt sur la fortune, mais sur l'immobilier. Donc c'est-à-dire qu'avant, c'était à la capitaliste, à la papa, tout le monde se faisait racketter pareil. Mais maintenant, il va se mettre à dos beaucoup de monde avec cette chose. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui finalement sont assujettis à l'ISF dans le pays, mais qui ne sont pas des fortunes énormes. En fait, ça va vite. Le gars qui a une maison à 500 000 dans une grande ville et deux apparts, il est dedans, quoi. Et mine de rien, ça fait beaucoup de gens. On se rend pas compte. Et en fait, du coup, il va supprimer l'ISF. Dans l'ISF, les gens, on ne tiendra plus compte de tout ce qui est boursicotage et compagnie. Donc, c'est-à-dire qu'on va taper sur le mec qui a bossé, on va dire, toute sa vie, même si c'est on peut dire, dans la tête d'un anticapitaliste forcené, c'est quand même une forme de parasitisme de posséder 74 immeubles, même quand, mais bon, il suffit d'en posséder un, et puis tu t'es dedans, hein, donc ça, il y a beaucoup de monde. Et si tu veux, là, il va exonérer les mecs qui boursicotent comme des cons, donc qui aggravent notre système monétaire, qui aggravent la faillite de notre système financier même, plus grave. Et à côté de ça, il va taper plus fort il tapera plus que les gens qui ont passé 40 ans, et en fait, je pense que là, il est en train de faire une grosse connerie. Je pense qu'il fait plaisir à beaucoup de copains financiers, mais qui se rend pas compte à quel point ça.
Ah, il faut qu'il renvoie l'ascenseur à ceux qui l'ont aidé à être président, c'est sûr.
Ouais, mais à mon avis, il va perdre du monde là sur.
Mais c'est bien, il va se mettre plein de monde à dos, ça va être très bien.
Et après, il veut faire aussi, il a un autre truc un peu bizarre. Il va baisser alors que c'est un peu là. Il y avait un début de croissance, il avait de la chance. Ah bon? Il avait un tout petit peu de voyants qui se remettaient au vert. Mais attention, hein, ces voyants qui se remettent au vert. C'est des voyants aussi bancaires, quoi. Donc ça veut dire que ça peut très bien, ça, plus l'économie a confiance quelque part, il y a un cercle vicieux sur ça. Plus les tendances vont monter et plus la crispation peut venir vite aussi, quoi. Si t'as la moindre baisse à nouveau. Et là, il annonce aussi qu'il va baisser de 260 millions les grands chantiers, les infrastructures et tout, alors que c'est un des trucs de base pour faire repartir le bâtiment. Tout le monde te le dit, quoi. C'est vieux comme la lune. Quand le bâtiment va, tout va, quoi.
Bah t'as les Jeux Olympiques.
Ouais, mais il va baisser les investissements, quoi. Donc d'un côté, j'ai l'impression qu'il est en train de vraiment changer son mode de libéralisme capitaliste. Ça devient vraiment là du néolibéralisme. Jusqu'à maintenant, c'était un peu exagéré quand on parlait de néolibéralisme. En France, oui, c'était un peu exagéré. On n'en était pas non plus au point des États-Unis ou des trucs comme ça, quand même. Faut pas, on n'est pas un pays néolibéral encore. Là, il est en train de mettre les premières mesures qui font la différence entre un pays néolibéral, quand même. À mon avis, il va perdre du monde là. Il va perdre beaucoup de gens à droite, quoi. Mais...
Merci Romain. Oui. Romain, ça me fait penser aussi un peu ces histoires de cadeaux fiscaux. C'est ce qui se passait sur Saint-Martin, là, qui vient d'être ravagé. C'est-à-dire que c'est un paradis fiscal français, Saint-Martin. Mmh. J'en avais parlé dans une chronique il y a 2 ans.
En fait, quel visionnaire. Ils viennent parler de la fin du monde, par contre. J'ai peur.
J'avais dit aussi que Macron serait pas élu. Hein. Bon, ouais.
Ah, sauvé.
Voilà. Et quand tu construisais là-bas, en fait, t'étais exonéré d'impôts. C'est pour ça qu'il y a... C'est une île en plus qui est pas viable, il y a pas de source d'eau ou très peu, et c'est pour ça qu'ils sont emmerdés là en ce moment, parce que t'avais une usine de désalinisation d'eau qui permettait d'approvisionner tout ça, quoi, et qui a été détruite pendant l'ouragan, et t'avais plein d'exilés fiscaux qui avaient une baraque là-bas, quoi, et qui maintenant sont bien contents de trouver les services publics.
Exactement.
Pour venir les aider,
qui les réclament.
Voilà. Oui, il y avait beaucoup d'auditeurs sur France Inter qui en parlaient le lendemain de la catastrophe en disant bah ouais, ils payaient pas d'impôts, ils ont pas financé la solidarité nationale et maintenant bah ils la réclament et on va leur donner évidemment parce qu'on est des gens cool, nous, et solidaires. Mais il faudra peut-être revoir un peu ça aussi, quoi. Mm-hmm. Voilà. Parce que ce qu'on peut faire sur Saint-Martin, on pourra pas le faire sur des étendues plus larges la prochaine fois. Mm. Donc il faut repenser nos systèmes de solidarité. Mm. Ouais.
Ouais. Mm.
Une belle occasion de faire prendre conscience aux exilés fiscaux de la nécessité de mettre au pot commun.
Mmh.
Non, je déconne.
Mais ça les touche un peu, leur petite maison dans les îles qui a été rasée, ça peut peut-être les faire réfléchir, quoi. C'était
foot,
sentimental, quoi.
Ils s'en foutent, ils en ont 6.
C'est ça.
Ok, voilà. Est-ce qu'on a des infos locales? Alors moi j'en ai, mais qui seront passées le temps que l'émission passe. Demain à Rignac, il y a la journée des possibles. Ça bouge pas mal à Rignac, aller faire un tour. Il y a des associations qui se développent, qui sont très dynamiques. Donc, voilà, demain, j'en parlerai peut-être dans la prochaine émission, mais il y avait donc des rassemblements justement sur il y a le copain de Momocho qui vont parler de ce qu'ils font, de travail, d'accueil et de solidarité envers les migrants pour leur trouver des maisons, des appartes à louer. Voilà, il y a pas mal de
trucs.
Des
choses sur le financement solidaire,
ouais,
aussi.
Ouais, sur le bio, sur. Ouais. C'est un truc intéressant à aller voir, quoi. Il y avait une super soirée au club ce soir où on enregistre, voilà, sur un after work en marche.
Mais quand
marche.
Tu nous écoutes, ce sera déjà passé.
Ouais, voilà. Donc voilà, je te
Merci
frustre.
Merci Guillaume,
hein, voilà,
pour toutes ces infos.
Bah ouais, voilà. Mais est-ce que vous avez des trucs plus longue date, voilà.
Guillaume vous paye tout son coup à boire ce soir.
Exactement. Voilà.
C'est dommage.
Ouais, moi j'ai une info à long terme, enfin sur les 3-4 prochains mois.
Des manifs à peu près tous les 2 week-ends.
Non, c'est pas ça. C'est un truc.
Ah oui, bah oui, vas-y.
C'est l'automne.
Ah non, c'est pas ça.
C'est trop cool, c'est l'automne. Voilà,
ouais.
C'est tout.
Ok. Ouais.
Le 10 octobre aussi, a priori. Une prochaine date de manif de mobilisation.
Ouais.
A priori, un petit rendez-vous qui semble un peu se pérenniser le lundi à 17h sur le rond-point des Moutiers aussi, à voir dans le temps. Mais peut-être, allez, jeter un coup d'œil.
Pour faire une réunion, c'est pas évident, soit un rond-point là, pour s'entendre, non?
Ça dépend, au milieu sous une bâche.
Mais tu te souviens, avant, il y avait un parti, avant qu'il éclate, avant-hier, tu sais, il y avait le Front National. Il a explosé hier, c'était le 21. Mais avant, on avait fait une super rencontre sur un rond-point. Ça, on était 200-300, c'était sympa. On avait fait un barbecue. Non, je m'en
rappelle pas du tout. Ah oui, d'accord, oui.
Okay. C'est un super lieu, les ronds-points, du coup. Si,
c'est ouais,
super
pourquoi convivial. Pas, ouais. C'est un carrefour. Bon, c'est un carrefour de voitures, pourquoi pas un carrefour d'idées, allez savoir. Carrefour, quoi.
Oh, c'est mignon.
Eh oui, le Front National, c'est vrai, quoi. On avait tout essayé, hein. Des manifs, des débats contradictoires, ouais. Tout ça. Et en fait, c'est un couscous. Ouais. C'est juste un couscous merguez qui nous a fait exploser, si on avait su, putain, voilà. Hein, ouais. Bien fait, crevez tous. Voilà, sur ces paroles confiantes. Il nous reste un peu de temps, on pourra passer de la musique. Ouais, 100 minutes, on va passer Massive Attack, hein, voilà. Pour bien vous défoncer la tête et on vous dit dans 15 jours c'est reparti pour une saison des Roquets. N'oubliez pas, voilà, likez la page Facebook, on met plein de petits liens de ce qu'on a parlé justement pour vous, si vous voulez approfondir nos chroniques, si vous voulez vérifier qu'on dit pas que des conneries, voilà, vous
et allez voir. S'il y a 10 pouces la prochaine fois je fais une chronique.
Allez-y, mobilisez-vous.
10 pouces et je fais une chronique. Non, ouais. à moins de, allez, les auditeurs, sans déconner les Roquets. Si vous faites pas l'effort de 10 pouces, je fais pas l'effort de faire une chronique.
Est-ce que si une personne fait 10 pouces, ça marche?
C'est possible?
Bah, il dit profil, sais pas.
Oui, après, tu peux les faire de plus en plus gros.
Ouais, je vais créer des profils.
Putain, ils vont arriver à me faire bosser les salauds, quoi.
Ok, c'est noté. Allez, à dans 15 jours. Ciao.
Salut.
Ciao.
Ciao. Red light socket in.
Laughter is heavy dog. I bring my voice. Yes, I don't need a fix. You call the trees.